Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Allez, on parle du mot de la semaine, j'ai choisi résister. Bah oui, comment l'économie fait-elle pour résister? Alors sur ce plateau, on est passé de l'anticipation, alors pas tout le monde, hein. Mais on est passé globalement, parce que j'entends déjà des murmures, de l'anticipation de récession à un ralentissement, voire une croissance zéro avec un scénario, c'était celui d'Emmanuel qui disait bah, « il va rien se passer de grave, donc arrêtez de vous inquiéter ». Et maintenant, même le ralentissement, c'est-à-dire ce scénario zéro plus, semble être moins fort que prévu. Exemple de surprise cette semaine, hein, les ventes au détail aux États-Unis qui ont flambé de 3% malgré l'inflation, malgré un taux d'épargne qui se casse la figure. Alors, Anne-Sophie, je me rappelle très bien que vous nous aviez dit bon, arrêtez de parler de récession, il ne va pas y en avoir. Donc, vous n'êtes pas surprise. Non. Mais est-ce que vous êtes surprise quand même par la vigueur? Parce que, OK, qu'il n'y ait pas de récession, Emmanuel nous l'avait dit aussi, on va rester à zéro plus. Mais là, ce n'est pas ce dont on parle. Hein.
Non, ce n'est pas ce dont on parle. C'est vrai qu'on avait calculé pour 2022 ce qu'on appelle les acquis de croissance. Donc, oui. On voyait que déjà pour 2023, en tout cas pour la France, on était à niveau positif. Donc, c'est vrai qu'on se dit bon, ben voilà, on peut remettre en cause ces indicateurs, mais globalement, c'est assez robuste dans le temps. Donc, on n'était pas sur une séquence de récession. Et même au niveau de la zone euro, on voyait qu'il y avait quand même des améliorations, notamment quand on regardait le marché de l'emploi, quand on regardait les perspectives même de croissance potentielle, même si c'est fort. En fait, on est vraiment dans un fort ralentissement, mais pas dans une récession massive. Ralentissement, on le sait, hein, crise géopolitique, inflation, et puis aussi ralentissement de la consommation des ménages, hein, qui est le premier moteur de croissance, et qui en effet, là, va ralentir au moins le premier et le deuxième trimestre, ce qui explique qu'on a une contraction importante.
Où ça, ralentir? Parce qu'aux États-Unis,
alors,
ça n'a pas ralenti.
Pas aux États-Unis, en zone euro, particulièrement en France. C'est pour ça qu'en France, nous, on est à 0,6% cette année de croissance. On n'est pas à 1 comme le gouvernement, mais pas non plus à 0, parce qu'on pense qu'il y aura de la consommation. Mais par contre, en effet, elle sera très ralentie. Pour le reste de la zone euro, on a les mêmes tendances qui vont être plus accentuées. C'est pour ça qu'il y a certains pays qui pourraient être en récession. On parle de l'Allemagne, l'Italie qui serait sur un fil. Les autres pays, ça devrait aller, puisque justement, on a toujours ce fameux stimuli budgétaire qui va continuer, plus ciblé, mais il va continuer au niveau des États. Encore cette année, et donc ça va nous permettre de sauver les meubles, on va dire, entre guillemets, d'avoir toujours un minimum de consommation, un marché de l'emploi qui reste important parce on a toujours créé, avec ce stimulé budgétaire, voilà. Tout à fait, voilà. On a de la demande qu'on a créée, donc il faut avoir de l'offre d'emploi, et donc quand vous prenez ces deux corollaires avec, en plus, je ne dis pas les hausses des taux qui vont permettre de faire baisser quand même progressivement l'inflation, et bien finalement, vous n'en sortez pas si mal.
Emmanuel Le Chypre, je me rappelle, donc vous nous avez répété ici à chaque fois, hein, il n'y aura pas de mauvaise nouvelle et puis arrêtez de vous inquiéter. Mais quand même, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Mais il y a la guerre en Ukraine, il y a les taux d'intérêt qui ont monté, il y a la consommation qui marque le pas. Et tout ça, ça donne quand même des chiffres qui sont, bon, finalement, OK. Bah, si on fait en France entre 0,6 et 0,9%, c'est quand même pas mal.
Bah oui, parce que alors ça fait partie des, quand on disait en fait 2022 ça a été l'année des scénarios extrêmes, oui. Et des chocs extrêmes, oui. Et 2023 ce sera une année au cours de laquelle il ne se passera aucun événement extrême, c'est ce qu'on avait dit, mais c'était pas de la prédiction, c'est parce qu'à chaque fois que vous regardez finalement un risque potentiel, ce risque potentiel est porteur lui-même des effets correcteurs de ce risque potentiel. Prenez par exemple, vous pouvez avoir le scénario que vous voulez sur la croissance chinoise qui est quand même un des gros aléas de l'année. Vous voyez bien que quel que soit le scénario, croissance forte, bah ça génère quelques inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Croissance faible, même chose. Si vous avez une croissance faible, c'est une bonne nouvelle pour les matières premières et l'inflation. Si vous avez une croissance forte, c'est une bonne nouvelle pour notre croissance à nous aussi. Et donc,
d'accord, mais
quand vous regardez les deux événements dont vous citez, par exemple, c'est intéressant. La réalité de la guerre en Ukraine, c'est que son impact sur l'économie mondiale est de plus en plus faible. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer, effectivement. C'est totalement dramatique.
On ne sait pas ce qui va se passer l'hiver prochain.
On ne sait pas ce qui va se passer l'hiver prochain non plus.
Sur l'électricité, sur le gaz.
Justement. Prenez par exemple, ça aussi, quand on exclut les scénarios extrêmes, on dit, attention, tous les pays vont se remettre à racheter du gaz à la fin de l'été,
non,
ça va être terrible.
En fait, non.
Non, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? C'est que tout le monde s'est mis en Europe, notamment de façon totalement désordonnée, à acheter du gaz. Il y a eu quand même un mouvement de panique, en même temps, tout le monde voulait avoir son gaz. Et à n'importe quel prix. Là, on a quand même mis en place des mécanismes qui devraient éloigner. Je ne dis pas que les prix du gaz, encore une fois, ne
montrent
pas.
J'ai compris.
Mais vous voyez, les pics qu'on a connus, ça on ne les aura pas. Et la bonne nouvelle, et moi je pense que vous parliez juste des taux d'intérêt pour finir, l'événement pour moi le plus important, c'est qu'en fait, tout le monde prend conscience que la hausse des taux d'intérêt ne doit pas faire peur, et que la hausse des taux d'intérêt est au final, au bout du bout, une bonne nouvelle pour, wow, pour l'économie mondiale.
Bon, alors ça, on va y revenir tout à l'heure.
La hausse des taux d'intérêt des banques centrales.
Sébastien Corchia.
Oui, un petit mot qui permet aussi de montrer pourquoi l'économie, au moins à court terme, est dopée, c'est qu'on a vécu dans un monde quand même qui était un monde de pénurie, et le mot pénurie, c'est un mot que vous n'avez plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même sur le monde des voitures, vous achetez une voiture.
Post-Covid.
Post-Covid, on vous disait une voiture, il faut attendre 2 ans. La réalité, c'est qu'avec l'ouverture de la Chine, au mois de janvier, qui a été annoncée, les ports se sont libérés, les marchandises sont arrivées, et donc les usines tournent parce qu'elles n'ont plus de problème de pénurie, semi-conducteurs ou ce que vous voulez. Ça fait tourner le PIB. Et quant au consommateur, il était lui-même en attente en se disant bah, tiens, j'aimerais bien acheter cette carte vidéo, mais elle est trop chère, elle n'est pas disponible. J'aimerais bien acheter cette voiture. Elle n'est pas disponible, j'ai pas envie d'attendre 2 ans. Et tout d'un coup, on a un consommateur qui n'a pas consommé beaucoup finalement. Il a consommé au mois d'octobre, on l'a vu dans les chiffres américains, là, qui a consommé au mois d'octobre parce qu'on lui a fait un Black Friday pendant 3 semaines à moins 50%. Il n'a plus rien consommé en novembre-décembre. Puis au mois de janvier, il se retrouve avec un salaire quand même aux États-Unis, mais en Europe, qui commence à réaugmenter. Il y a toujours de l'emploi, il marche bien aussi en Europe. Donc les gens ont de l'argent, ont du travail. Et puis, ils pouvaient pas acheter des biens, et les biens sont là. Et les usines tournent. Donc, attention, à court terme, on a finalement un effet d'offre qui permet à l'économie de tourner.
C'est tous les goulets d'étranglement.
Mais pas forcément un effet de demande.
Tous les goulets d'étranglement et de pénurie post-Covid, qui, du fait du ralentissement de l'économie relatif, permettent à l'économie de se tenir.
Donc, et d'accélérer un petit peu.
Ce que vous dites,
c'est-à-dire
que...
Même chose sur tout ce qui a fabriqué l'inflation.
Il y a Pascal qui veut.
Vous voyez bien que tout est en train de ralentir et de nous conduire à un ralentissement quand même assez marqué de l'inflation.
Le coût du fret, c'est assez spectaculaire.
Ah, on est revenu quasiment au niveau d'avant.
Il est revenu au niveau d'avant.
Peut-être juste pour compléter.
Très rapidement.
Si on parle 2 minutes des entreprises, les carnets de commandes étaient quand même plus que pleins, ce qui a énormément soutenu la croissance en partie l'année dernière et a permis quand même de passer la crise de manière relativement OK. Et en ce début d'année, on est encore en train de surfer sur cette vague. Nous, quand on parle à nos clients qui sont des chefs d'entreprise, ils nous disent que les carnets de commandes leur permet vraiment de continuer à finalement
ils ont une visibilité.
Ils ont une visibilité. Alors c'est pas vrai dans tous les secteurs, mais dans la globalité, le discours des entrepreneurs, il est plutôt positif. Et je pense que ça va aussi fortement soutenir la croissance faible certes, mais tout de même là sur l'année 2023.
Ouais, pas si faible que ça.